Aujourd'hui, jour de Noël, je voulais donc aborder avec vous la question de la naissance virginale de Jésus. C'est une question extrêmement délicate, parce que les évangélistes, comme les chrétiens d'aujourd'hui, sont la moitié à peu près à ne pas y croire. Je veux dire que seuls Matthieu et Luc signalent cet événement, alors que Marc et Jean n'en font pas mention, et je crois que c'est à peu près dans la même proportion aujourd'hui que les chrétiens, ou tout au moins les protestants, croient à l'historicité de ce miracle de la naissance virginale de Jésus, ou n'y croient pas. Toujours est-il que l'on ne peut pas balayer du revers de la manche une doctrine qui a eu une certaine importance dans le christianisme, pour des raisons purement, je dirais, rationnelles, en disant « ça ne m'intéresse pas, c'est médicalement impossible, et donc je me désintéresse de cette question ». Je crois qu'il faut toujours se demander pourquoi est-ce que l'on a pu, je dirais, inventer, ou tout au moins nous dire cette chose-là, quel intérêt est-ce que cela a, et quelle est la raison profonde. Lorsque l'on examine les raisons un petit peu historiques de l'apparition, puis du développement ou de l'importance donnée à ce thème de la naissance virginale de Jésus, on trouve tout un tas de raisons, dont certaines sont, à mon avis, bonnes, et d'autres sont, à mon avis, mauvaises. Alors, bien que moi-même, je dirais historiquement, je ne le cache pas, je n'y crois pas, néanmoins, je pense que cette thèse de la conception virginale peut avoir un intérêt. Mais la question, c'est d'y mettre en dessous une signification qui soit bonne et positive, qui corresponde, dirais-je, à de la bonne théologie. Alors, examinons d'abord un petit peu rapidement ce que je considère comme les mauvaises raisons. Certains auteurs, plus ou moins historiens, nous ont montré d'abord qu'une des raisons pour lesquelles on a pu parler de cette naissance extraordinaire était pour valoriser le Christ, en quelque sorte. Et donc, si l'on a un homme extraordinaire, un être extraordinaire, il fallait bien qu'il ait une naissance extraordinaire. Aussi, ce peut être la première raison, la naissance extraordinaire de Jésus est là pour montrer que c'est un être extraordinaire. Personnellement, je n'aime pas trop cette raison, parce que je crois que si Jésus est extraordinaire, ce n'est pas tellement à cause de sa naissance, chose qu'il a finalement subie, mais si Jésus est extraordinaire, c'est par son témoignage, par son discours, par sa prédication, par sa façon d'être et par l'amour qu'il a porté au monde. Or, je ne crois pas que le nouveau-né Jésus, à une heure après sa naissance, ait témoigné d'un très grand amour pour l'humanité, ni même qu'il ait eu une prédication formidable, ou même qu'il ait pu être la cause du salut de grand monde. Et quand on voit ce genre d'argument, on se rend compte qu'on retrouve la même chose dans toutes les religions, où dès qu'il y a un être un petit peu exceptionnel, un peu fondateur dans une religion, on lui invente une naissance extraordinaire. On trouve ça chez les Romains, chez les Grecs, chez les Égyptiens, chez les Indiens, dans tout le monde entier. C'est une tendance finalement assez habituelle de l'espèce humaine. Autre raison que je comprends assez bien, qui a pu être une raison, dirais-je, pédagogique. En effet, Jésus s'est présenté lui-même comme étant le Fils de Dieu. Et c'était une chose assez difficile à comprendre, parce qu'il fallait comprendre ce que signifiait que Jésus est Fils de Dieu en tant qu'il est l'héritier de cette réalité spirituelle et extraordinaire qu'est Dieu, en tant qu'il incarnait en lui-même toute la présence divine de Dieu, toute la parole créatrice de Dieu. Or, c'était difficile certainement d'expliquer à un peuple peu instruit, dans les débuts du christianisme, on leur disait « Jésus est Fils de Dieu ». Peut-être qu'à ce moment-là, certains pinaillaient en disant « Mais enfin, comment cela est-il possible? Mais qu'est-ce que cela veut dire, Fils de Dieu ?» Et je comprends très bien qu'à ce moment-là, les catéchètes aient dit « Ben écoutez, voilà, Jésus est Fils de Dieu, et la meilleure preuve, c'est qu'il est né de Marie et de Dieu. » Donc il est fils de Marie et il est aussi fils de Dieu. Et donc la question est indiscutable. Là encore, cela ne me plaît pas beaucoup parce que je crois que finalement, si Jésus est fils de Dieu, c'est d'une façon spirituelle et dans un rapport de fidélité, de transmission de Dieu et non pas forcément dans un rapport biologique ou généalogique. Et puis enfin, une troisième raison qui est encore une mauvaise, et après je passerai à ce que je crois être une bonne raison. La troisième raison, qui est la plus épouvantable qui soit, et qui, s'il n'y avait que celle-là, me ferait affirmer avec beaucoup plus de virulence que je serais très opposé à cette idée de la naissance virginale, c'est, disons, elle explique le succès de cette théorie de la naissance virginale de Jésus au Moyen-Âge, lorsque, pour une raison obscure, le christianisme a commencé à vivre dans une sorte d'exécration du corps et de la dimension physique de l'être humain. Et à ce moment-là, se sont trouvées valorisées des questions de virginité. Et on a trouvé que être vierge, c'est-à-dire n'avoir jamais connu de rapport sexuel, était une sorte de pureté, une sorte de qualité extraordinaire, d'élévation d'âme merveilleuse. Et alors on comprend qu'effectivement, à ce moment-là, on ait trouvé que c'était extraordinaire que Marie soit restée vierge, parce que comme cela, elle était pure. Eh bien, cet argument est pour moi absolument inacceptable, parce que je ne crois pas que la pureté ait quoi que ce soit à voir avec la question de la sexualité. Et je ne crois pas que quelqu'un qui n'ait jamais, fait l'amour ou n'ait jamais vécu la moindre sexualité soit plus pur que quelqu'un qui ait vécu la sexualité. Parce que la sexualité n'est pas une honte, elle n'est pas une tâche, elle n'est pas un péché, elle n'est pas une chose immonde, elle n'est pas sale, elle peut être la plus belle, la plus extraordinaire des choses, si elle est vécue dans la fidélité, dans l'amour, dans la tendresse et dans le respect de l'autre et de soi-même. Et par conséquent, je crois que je soupçonne en quelque sorte que le succès de cette théorie de la naissance virginale ou d'une Marie qui ait dû rester pure et ait dû ne jamais connaître la sexualité, finalement ne sont que les vestiges d'une théologie fondamentalement dualiste où l'on considère que l'esprit est tout et que le corps n'est rien, et où l'on considère que l'on devrait, châtier le corps, et pour même dire châtrer le corps pour s'élever spirituellement, ce qui est, je crois, une chose fausse. Et en tout cas qui n'est pas cohérent avec le message global, du moins me semble-t-il, de l'Évangile. Alors il reste, à mes yeux, une quatrième raison qui, elle, me semble assez bonne et qui fait que finalement, je suis plutôt d'accord avec le fait que l'on puisse professer cette thèse de la naissance virginale de Jésus en fonction d'un message qu'elle pourrait véhiculer et qui serait le suivant. Qui est, je crois, celui, en fin de compte, de l'évangéliste Matthieu. Parce que si on lit Matthieu, par quoi commence la naissance de Jésus, l'histoire de l'Évangile ? Il ne commence absolument pas par la naissance, par la conception virginale de Jésus. Il commence par un texte très curieux que je vous ai lu intégralement et que vous n'aviez peut-être jamais lu intégralement, parce qu'en général, on le saute en se disant que ça n'a pas d'intérêt. C'est la généalogie de Jésus. Et l'on a là, je crois, 42 générations, une longue généalogie qui est souvent passée et méprisée et qui en plus est, je dirais, considérée comme absurde parce que cette généalogie n'est finalement pas celle de Jésus, elle est celle de Joseph. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous donne la généalogie de Joseph si Jésus ensuite nous est dit ne pas être son fils ? Cela semble finalement assez curieux. Et d'autre part, cette généalogie est fantaisiste, évidemment, puisque, par exemple, l'évangéliste Luc nous donne aussi une généalogie, mais elle n'a à peu près rien à voir avec celle-là. Elle est différente, sauf sur 8 ou 9 noms, je crois. Et pourtant, je crois que cette généalogie est très importante. Elle est essentielle et fondamentale, parce qu'elle nous montre que le Christ ne naît pas de rien. Il ne naît pas de nulle part. Mais il apparaît dans une histoire humaine. Et c'est dans une histoire humaine, dans une transmission humaine, dans une succession de généalogies, de vies quotidiennes, que tout à coup Jésus naît et que Dieu intervient, qu'il se passe quelque chose. Or ça, c'est important pour nous, parce que la question n'est pas tant de savoir comment Jésus a pu naître historiquement il y a 2000 ans, mais la question est de savoir comment aujourd'hui dans nos vies le Christ peut naître et comment aujourd'hui de notre histoire humaine tout à coup peut surgir une dimension éternelle, lumineuse, vivante pour l'éternité, une dimension christique, dirais-je. Car cela, c'est aussi les mots même de certains apôtres, il faut que le Christ naisse en nous. Mais comment le Christ va-t-il naître en nous? Et comment est-ce que de notre vie humaine, un petit peu terre-à-terre et quotidienne, comment pourrait-il naître de cette vie-là quelque chose d'extraordinaire, qui transcende le matériel, le quotidien, qui transcende même les règles habituelles, je dirais, de la vie, qui puisse se projeter dans l'éternité? Comment cela est-il possible? Eh bien, cela est possible lorsque, justement, il se passe dans nos vies ce qui se passe là précisément dans la vie du Christ, c'est-à-dire lorsque Dieu vient tout à coup faire choc avec une histoire humaine. Et c'est ça que j'aime dans ce récit de Matthieu, c'est que l'on voit une longue généalogie, et tout à coup, Dieu vient, je dirais, percuter de front cette généalogie, et alors naît le Christ. Alors que sinon, dans cette généalogie faite de je ne sais plus combien de noms, dont les 4/5 sont totalement inconnus, on aurait pu continuer à vous faire des listes infinies de gens inconnus. Et d'ailleurs, j'imagine que à la lecture de cette généalogie, vous avez été vous-même surpris. J'ai enfilé des noms inconnus et des noms inconnus qui ne sont jamais cités dans la Bible, et tout à coup, un tel engendra Joseph, père de Jésus. Paf ! Changement. Mais tel que j'étais parti, vous vous imaginiez que j'aurais pu continuer encore des pages et des pages, un tel engendra machin, qui engendra bidule, qui engendra truc, et puis on continue comme ça, dans une succession ininterrompue d'histoires humaines. Or, la généalogie de Jésus est très intéressante parce qu'elle est faite un petit peu de tout. Elle est faite de bons, de mauvais, de moyens, de gens célèbres et de gens inconnus. Nous y trouvons tout à la fois Abraham, quel exemple même de la foi. On y trouve aussi des rois qui, après Salomon, ont été des rois épouvantables, des rois violents, des rois rejetant l'Éternel, des rois s'opposant à Dieu, des rois faisant des massacres effrayants. Nous y trouvons des gens merveilleux comme Ruth, qui était païenne justement et qui se convertit au judaïsme. Mais on y trouve aussi des juifs qui abandonnent la foi de leurs ancêtres. On y trouve une prostituée, Tamar. On y trouve un père qui couche avec sa belle-fille. On y trouve des enfants dont on connaît la mère mais dont on ne connaît pas le père. Et puis surtout, on y trouve des pelletés de gens totalement inconnus, des gens qui n'ont laissé aucune trace dans l'histoire. Et cela m'enseigne deux choses. D'une part, il est remarquable que l'évangéliste n'ait pas cherché à donner à Jésus une généalogie parfaite. Et cela nous montre d'abord que le Christ, s'il a été cette personne extraordinaire, ce n'est pas grâce à ses ancêtres. Et que l'histoire humaine ne suffit pas, je dirais, à donner le salut. La perfection humaine n'est pas une chose qui s'hérite. La qualité spirituelle et l'éternité n'est pas quelque chose qui nous vient seulement de nos ancêtres, mais c'est quelque chose d'autre. Et d'autre part, cela m'enseigne aussi que toutes ces horreurs que l'on trouve dans la généalogie du Christ, ça c'est une bonne nouvelle, n'ont pas été un obstacle à la naissance de Jésus. Jésus est venu, bien qu'il y ait eu dans ses précédents, des choses épouvantables et des choses très mauvaises. Et cela nous montre que nous pouvons avoir confiance dans le fait que Dieu peut venir sauver tout homme et que, quelle que soit notre histoire, qui est faite comme la généalogie de Jésus, de bons comme de mauvais, de choses insignifiantes comme de choses merveilleuses, quelle que soit notre histoire, Dieu peut venir et Dieu peut considérer qu'il n'a pas à... Je dirais, il n'a pas à trouver que cela serait déshonorant pour lui que de s'unir à une histoire humaine, même si elle n'était pas parfaite. Et puis le Christ est donc le fruit de cette nature humaine, de cette lignée humaine, dans laquelle tout à coup se trouve une rupture, et cette rupture, c'est la conception virginale de Jésus. Et je vois dans cette conception virginale comme une image du point de rencontre entre une histoire humaine et Dieu lui-même. Comme si c'était Dieu qui, en quelque sorte, venait féconder cette histoire humaine pour donner naissance à une réalité nouvelle. Et sinon, l'histoire humaine, si elle n'est pas fécondée à un moment donné par quelque chose d'extérieur, par quelque chose d'autre, elle ne peut que se répéter éternellement et que redonner toujours les mêmes erreurs et les mêmes limitations. Et je crois que cette idée de la conception du Saint-Esprit prend tout son sens quand on la lit après cette insistance sur la généalogie. Cela nous montre que l'accomplissement de notre existence, elle ne peut se trouver que dans l'union, au sens le plus fort du terme, entre cette dimension humaine de notre vie, entre notre histoire humaine qui tout à coup s'unit avec une dimension divine, qui est la dimension du spirituel et la dimension de Dieu. Et il est vrai que nous sommes appelés, ça c'est le Christ qui le dit lui-même, nous sommes appelés à naître de nouveau, nous sommes appelés à naître spirituellement à l'image du Christ. Le Christ qui est dit dans les Épîtres être le premier-né de la nouvelle création. Et pour cela, il faut que Dieu vienne féconder cette dimension humaine imparfaite pour qu'il donne naissance à quelque chose de bon et d'éternel, à cette dimension intérieure qui peut grandir. Et je crois que la tradition romaine a eu assez raison lorsqu'elle a présenté Marie comme l'exemple du croyant. C'est comme cela, je crois, que Marie est souvent vécue dans la tradition romaine. Marie est l'exemple même du croyant. Et en effet, Marie est montrée comme quelqu'un qui n'est pas stérile, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a une certaine fécondité dans sa vie. Ça, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Que notre vie ne reste pas renfermée sur elle-même en ne vivant que pour elle-même, mais que notre vie donne naissance à quelque chose qui aille au-delà de nous-mêmes, jusque vers les autres, jusque vers Dieu et jusque vers l'éternité. Et si Marie est l'exemple même du croyant dont la vie peut devenir féconde, comme elle, nous devons aussi nous-mêmes nous laisser féconder par Dieu. Et c'est là où je crois que cette intuition de la naissance virginale est très essentielle. Si l'on le prend dans le sens théologique, bien sûr, historiquement et humainement, je crois que Jésus est né d'un homme et d'une femme comme tout le monde. Mais ce n'est pas, même si j'ai dit que l'amour humain et physique n'était pas mauvais, ce n'est pas en faisant l'amour avec sa femme ou avec son mari que l'on va aller dans des sphères extraordinaires de bonté, de générosité et d'éternité. Cela n'a rien à voir. On est là dans un autre domaine, qui est celui de l'accomplissement spirituel de sa vie. Et dans ce domaine, comme Marie, nous devons nous laisser féconder par Dieu lui-même. Et nous devons faire en sorte que ce soit Dieu qui, d'une certaine manière, vienne coucher avec nous, s'unir avec nous, et nous devons enlacer Dieu, l'embrasser, nous unir à lui, pour que enfin, dans cette union, dans cette proximité extraordinaire, dans cette intimité avec Dieu, ce n'est que de là que peut naître quelque chose d'extraordinaire qui est de l'ordre du Christ lui-même. Et je crois effectivement que la fécondité dans nos vies ne peut venir que lorsqu'il y a deux réalités différentes qui s'affrontent. Par exemple, dans le monde animal, il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Ou dans le monde de la physique, il faut en électricité, il faut qu'il y ait un pôle plus et un pôle moins. Et si on n'a pas deux pôles, même si on a des forces très importantes, eh bien il n'y a ni lumière, ni mouvement, ni fécondité, ni rien du tout. Et je crois que nos existences également, pour être fécondes, doivent être en interaction avec un pôle qui est autre qu'elle-même, en interaction permanente. Et je crois que la fécondité de nos vies ne peut naître que lorsque nous sommes nous-mêmes en tension entre deux pôles, c'est-à-dire entre le pôle de notre vie concrète, matérielle et quotidienne, et qui se trouve justement en interaction avec un autre pôle, qui est celui de l'utopie, celui de l'esprit, celui de la prière, celui de l'idéal et celui de l'évangile, le monde matériel et le monde spirituel. Et c'est lorsque les deux ensemble viennent interagir, viennent se rencontrer, c'est là qu'il se passe peut-être parfois des étincelles, mais parfois aussi c'est là que naît la vie. Et je crois que le risque dans tout cela, que la théologie, dans laquelle la théologie est souvent tombée, c'est de vouloir oublier une dimension ou une autre. Et si on oublie un pôle, il n'y a plus de fécondité. Si on reste dans le matérialisme, si on reste dans le quotidien, dans le métro, boulot, dodo, dans toutes nos préoccupations matérielles, humaines, quotidiennes, familiales et autres, rien ne se passe. Notre vie reste une sorte d'agitation ne menant à rien. Inversement, si l'on croit que l'on doit nier la dimension physique pour passer son temps dans la prière et dans le détachement, à mon avis, on est aussi dans la stérilité. Et c'est ça la grandeur de la vie humaine, c'est d'accepter cette espèce d'écartèlement permanent entre le matériel et le spirituel, et c'est dans cette tension permanente entre ces deux dimensions de notre vie que peut naître une dimension de fécondité absolument extraordinaire. Oui, nos existences sont ainsi, et comme l'union, j'allais dire comme l'union sexuelle, le matériel et le spirituel dans nos vies doivent interagir, doivent se féconder l'un l'autre, sans qu'il y ait de mélange, sans qu'il y ait de confusion, sans que l'un soit appelé à se transformer à l'autre, ou sans que l'on en oublie une dimension au bénéfice de l'autre. Alors, comme Marie, nous devons accepter de nous laisser féconder par Dieu. Comme Marie, nous devons accepter de laisser Dieu venir dans nos vies. Mais nous ne devons pas faire de Dieu un simple accueil extérieur, intellectuel, un petit peu formel, comme ça, on écoute d'un œil distrait en disant « oui, oui, c'est intéressant ». Non, c'est plus que cela. Il faut coucher avec Dieu. Alors vous me direz, cette image est un petit peu crue. Elle est un petit peu crue, mais pourtant, écoutez, c'est quand même, quand on parle de naissance virginale, c'est que l'on est déjà dans la, je dirais, dans la crudité même des termes, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Cette image est crue, et en même temps, elle est présente tout au long de la Bible. Parce que dans toute l'Écriture, l'humanité est montrée comme une femme qui doit s'unir à l'époux qui est Dieu et se laisser féconder par lui. C'est toute l'histoire du Cantique des Cantiques, qui est extrêmement explicite et qui a des images souvent très crues. C'est l'histoire de l'Évangile qui nous présente le Christ comme étant l'époux et qui nous invite à être comme des vierges sages qui savent accueillir l'époux en nous préparant pour une nuit de noces. Et sans cesse, la parole de Dieu, elle est comparée à une semence et on nous dit que nous devons laisser cette semence et cette parole de Dieu pénétrer en nous-mêmes. Regardez en Hébreux 4, 12, quand on dit « la parole est vivante et efficace, elle est aiguisée plus qu'une épée à double tranchant, et elle pénètre jusqu'à la dimension de l'âme et de l'esprit. » Et l'épée, dans toute civilisation, est un symbole qu'il n'est pas la peine d'expliquer. Et de la même manière, nous avons dans la philosophie grecque, alors là, le mot est lâché, nous sommes d'une façon totalement explicite dans le stoïcisme. L'on nous explique que le monde est comme une dimension féminine et que le monde matériel doit se laisser féconder par la parole de Dieu dont les Grecs disaient que c'était le logos spermaticos, c'est-à-dire la parole spermatique de Dieu, la parole fécondante de Dieu. Et je ne crois pas qu'il faille, je dirais, avoir une sorte de naïveté en se disant « Ah bon, la parole spermatique de Dieu, mais alors si j'écoute le pasteur au culte, moi je risque de devenir enceinte. » Mais on ne parle pas de ça, bien sûr. C'est un autre mode d'engendrement. Et je crois que cette théorie de la naissance virginale de Jésus a énormément pâti de la naïveté des auditeurs et de la naïveté des prédicateurs, qui ont toujours voulu faire croire aux gens qu'il s'agissait d'une question de gynécologie, alors qu'il ne s'agit pas de gynécologie. Il s'agit d'autre chose. Et si l'on parle d'autre chose que de gynécologie, alors cette théorie est la plus belle et la plus grande des choses. Parce que la naissance du Christ, c'est l'image même de cette chose fondamentale qui est la fécondation de nos vies concrètes par Dieu. Cette théorie explicite le mode de présence qui doit être celui de Dieu dans nos vies pour pouvoir être fécond. C'est-à-dire ne pas sacrifier une dimension physique pour accéder au spirituel, mais accepter plutôt quelque chose comme une greffe. La greffe qui ne modifie pas la nature profonde de l'arbre, mais qui la fertilise. et qui le rend bon pour qu'il ne soit pas coupé et qu'il donne du fruit. Si nous voulons être à l'image du Christ, nous devons naître comme lui. Et pour cela, il faut que Dieu vienne dans notre histoire personnelle pour que nous puissions être à la fois fils des hommes et fils de Dieu. Et Jean, dans son évangile, qui ne parle pas de naissance, nous dit simplement « Au commencement était la parole ». Et c'est vrai. Je crois qu'au commencement de toute vie réussie, il doit y avoir une parole de Dieu. Mais pour que cette vie inaugure un vrai commencement de vie éternelle, il faut que cette parole vienne au plus profond de nous-mêmes. Il faut que nous connaissions cette parole. Mais quand je dis que nous connaissions cette parole, je voudrais dire que nous la connaissions au sens biblique du terme, comme l'on dit, Adam connut Ève, sa femme, et enfanta Abel. Il faut que nous connaissions cette parole comme Marie a connu Dieu. Parce que nous sommes appelés, nous aussi, à cette union mystique qui, elle seule, peut donner naissance à l'éternel, au transcendant et au vrai bonheur d'être semblable au Christ. Amen.